VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Bamako, midi à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, le gouvernement appelle la population à la vigilance après les menaces proférées contre le pays et aussi la Mauritanie par le groupe djihadiste Ansar Dine qui opère au Mali voisin. Des précisions avec Idrissa Sédoudia.
La Côte d'Ivoire, pour rappel, a été jusqu'ici épargnée par les raids islamistes dans la région. Le porte-parole du gouvernement, Bruno Conné, a déclaré à l'issue d'un conseil des ministres que les autorités demandent à tous d'accroître leur vigilance et de communiquer avec les forces de sécurité afin qu'une réponse appropriée soit apportée à cette menace. Des mesures sont prises de façon récurrente, permanente depuis plusieurs mois pour contrer la menace djihadiste, a poursuivi M. Conné, qui a tenu à rassurer les Ivoiriens tout en refusant d'en dire plus pour des questions de sécurité. Des mesures de renforcement ont été prises des deux côtés de la frontière. Les choses se mettent en place pour éviter que ce qui a commencé n'aille trop loin, a souligné Bruno Conné.
Au Niger, remise mercredi au gouvernement des sommes et autres biens collectés par le comité d'organisation du Téléthon de mobilisation de fonds pour les forces de défense et de sécurité engagées dans la guerre contre le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Une belle recette en France CFA. Des détails avec notre correspondant à Niamey, Abdoul Razak Idrissa.
C'est au cours d'une cérémonie officielle que le président du comité chargé d'organiser ce téléthon, M. Adamou Imeran Meiga, a remis le chèque au ministre de la Défense nationale.
Le téléthon a permis de mobiliser un total en numéraire sous le contrôle de l'huissier, vigilant et le régisseur. 1 646 560 444 francs. Valeur et don en nature, 164 760 000 francs. Toto, 1 811 320 444 francs.
Recevant le chèque, le ministre a remercié les organisateurs et les contributeurs de ce téléthon, M. Kariyo Mahamadou.
Je voudrais féliciter et remercier très vivement les Nigériens qui ont contribué, qui ont donné ce qu'ils peuvent de manière symbolique pour exprimer qu'ils sont au quotidien, derrière les forces de défense et de sécurité, se sont engagés pour protéger l'intégrité de notre territoire national, pour sécuriser les Nigériens et leurs biens.
Il y a eu beaucoup de spéculations autour des fonds qui ont été mobilisés lors de ce téléthon dans l'opinion nigérienne, spéculations sur lesquelles est revenu le président du comité d'organisation Adamou Imeran Meiga.
Le téléthon que nous avons organisé est une initiative citoyenne venant librement des citoyens nigériens qui ont à cœur le soutien à nos braves et vaillantes forces de défense et de sécurité. Contrairement donc à ce qu'ont avancé certains acteurs par mauvaise foi, il faut le dire, le gouvernement n'est ni auteur ni commanditaire de ce téléthon. Je précise formellement qu'aucun franc n'a été prélevé pour qui que ce soit et par qui que ce soit.
Abdoulaye Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président français François Hollande est aujourd'hui à Cotonou au Bénin, première étape de sa nouvelle tournée en Afrique. Nicolas Pinault.
Sur le tarmac de l'aéroport international de Cotonou, François Hollande a été accueilli par son homologue béninois Thomas Boniyayi et par le Premier ministre Lionel Sinzou. C'est la première visite d'État d'un président français depuis celle de François Mitterrand en 1983. Outre un entretien avec M. Yayi Boni, François Hollande doit prononcer une allocution devant les parlementaires béninois et d'autres personnalités du pays. M. Hollande devrait s'attacher à souligner l'exemple de démocratie que représente le Bénin, qui a connu trois alternances démocratiques depuis 1990. Le président Boniyayi a répété plusieurs fois qu'il ne se représenterait pas comme le lui interdit la Constitution, mais l'opposition le soupçonne de vouloir manœuvrer en vue de la présidentielle de 2016. M. Hollande visitera deux sites présentés comme des modèles de coopération. Un laboratoire de recherche franco-béninois testant un nouveau vaccin contre le paludisme, ainsi qu'une Blue Zone, centre d'activité entièrement autonome sur le plan énergétique grâce à un parc de panneaux solaires créé par le groupe français Bolloré. Cette visite express sera suivie d'un déplacement en Angola dès jeudi après-midi.
Après l'Angola, François Hollande se rendra au Cameroun.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Burundi, retour au calme aujourd'hui à Bujumbura, la capitale, au lendemain d'affrontements qui ont fait 6 morts par balle mercredi. La police dit avoir engagé hier des combats avec un groupe armé dans le quartier contestataire de Chibitoke, qui ont coûté la vie à 5 assaillants et un policier. Mais, selon l'AFP, des témoins oculaires parlent d'exécution sommaire lors d'une opération de ratissage du quartier par la police. En RDC, la MONUSCO, la mission de l'ONU sur place, exhorte le gouvernement à déployer ses policiers sur toute l'étendue du territoire national. Dans beaucoup de régions, la couverture policière est minime, d'où un programme de 5 ans pour réformer la police et lui permettre d'être sur le terrain partout où sa présence s'impose. Salwa Jafari.
Martin Kobler a un message à passer. S'adressant aux médias, le chef de la MONUSCO a vanté les succès de l'armée commune et des opérations de l'ONU contre les rebelles. Mais il a souligné l'importance du suivi de ces succès avec une présence policière permanente.
On peut combattre contre les troupes armées si on n'a pas la restitution de l'autorité de l'État, l'administration civile, les agences sécuritaires par là. Alors ça ne va pas être couronné au final du succès.
Kobler a donné l'exemple de la région de Bukaringi qu'il a visitée récemment, un territoire qui s'étend sur 400 km et où résident 64 000 habitants. Eh bien, on n'y trouve que 4 officiers de police, soit un agent par 16 000 personnes, alors qu'il devrait y en avoir un par 500 habitants. Les derniers chiffres officiels indiquent qu'il y a environ 100 000 policiers en RDC, un policier par 500 personnes à l'échelle nationale. Gentou Mandou, un ancien président des groupes de la société civile dans la province du Nord Kivu, a toutefois déclaré à la VOA que ce chiffre doit être actualisé.
Dans la liste qu'on présente des policiers, vous allez trouver, sur cette liste, il n'y a que peut-être 60% des policiers réels. Mais les 40%, ce sont des policiers fictifs, donc déjà qui n'existaient pas, mais dont l'air sort chaque fin du mois. Et l'argent est empoché quelque part.
D'après lui, seulement 60% des noms figurant sur la liste de la police sont en fait des policiers. Les autres sont des agents fantômes. Il existe de nombreux territoires comme Bukaringi où la présence de la police est minime, nous explique l'universitaire Maria Erickson Baz, une experte en services de sécurité du Congo. Elle nous dit que dans de nombreuses régions de l'Est, les policiers ne sont tout simplement pas présents, contrairement aux zones urbaines. Une absence due, selon elle, à la situation sécuritaire dans ces contrées. La police est simplement incapable de faire face aux groupes armés. Le gouverneur du Sud Kivu a déclaré le mois dernier que les forces de la police sont en cours de formation. L'intégration de nombreux anciens rebelles ne peut pas être achevée en 2 ans, faisant allusion à un programme de formation de 5 ans lancé en 2012.
Centrafrique maintenant, il n'y aura pas de désarmement des groupes armés avant les élections d'octobre prochain, a annoncé mercredi la MINUSCA, la mission de l'ONU en RCA, dans sa conférence de presse hebdomadaire à Bangui. Le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
La MINUSCA a fait cette mise au point en réaction à la position du Parlement provisoire, estimant mardi à l'issue de sa 3e session extraordinaire que le désarmement était la seule meilleure condition d'aller aux élections. Cependant, le projet pré-DDRR est déjà mis en route pour faciliter le bon déroulement de ces élections. Amadou Ntouré, porte-parole de la MINUSCA.
Je pense que les conditions de sécurité peuvent être renforcées sans obtenir le désarmement total des groupes armés. Parce que le temps qui nous sépare des élections ne permet pas la réalisation effective du DDR. Dans sa totalité. Et nous sommes en train de travailler pour que les armes se taisent pendant toute la période où on parle d'élections jusqu'à ce que le processus électoral arrive à son terme.
Par ailleurs, la MINUSCA a annoncé l'arrivée ce jeudi de tous les matériels électoraux à Bangui, des matériels dont la distribution à l'intérieur du pays ne devrait pas tarder. Freeman Sipila, Bangui, Voix de l'Amérique.
En Tunisie, arrestation de 12 suspects dans le cadre de l'enquête sur l'attaque terroriste de la semaine dernière qui a fait 38 morts à Sousse pour la plupart des touristes. Selon la police, il n'y a eu qu'un seul assaillant, Saïf Rezgi, qui a été tué par les forces de sécurité après le massacre. Mais les autorités recherchaient les personnes qui l'avaient aidé avant l'attaque, revendiquées par l'État islamique. Le même groupe s'était dit responsable de l'opération contre le groupe du musée du Bordeaux en mars à Tunis où 2 hommes armés avaient massacré 21 personnes. Les autorités tunisiennes affirment que Saïf Rezgi et les 2 auteurs de l'attaque contre le musée se sont entraînés ensemble en Libye. À ce propos, le Premier ministre du gouvernement libyen soutenu par la communauté internationale, Abdullah Al-Tini, se dit maintenant prêt à signer un accord de partage du pouvoir avec le gouvernement rival soutenu par les islamistes actuellement installés à Tripoli. L'ONU essaie depuis des mois de convaincre ces deux régimes rivaux de s'entendre face à la menace du groupe État islamique. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.